Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, de retour avec une nouvelle interview d'un autre artiste des Hauts-de-France. Après Amérique, que vous avez découvert il y a 2 semaines, je vous fais découvrir Manuel, qui officie sous le pseudo d'Irezumi. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir l'interview enregistrée dans les studios de Radio Graphite.
Ambiante Memory.
Bonsoir à toutes et à tous, donc Ambiante Memory pour une nouvelle émission avec une interview d'un artiste des Hauts-de-France. On continue notre petit tour des Hauts-de-France sur ce mois de décembre. Donc j'accueille Manuel qui officie sous le pseudo Irezumi. Donc c'est un artiste ambiante. Pour surtout découvrir son parcours. Donc il a produit pas mal d'albums. Il a été aussi dans pas mal d'événements ambiantes, des chill out, que ce soit en France, que ce soit en Europe. Donc il va nous parler de tout ça. Donc bonjour Manuel.
Bonjour.
Donc bienvenue et aussi merci d'avoir répondu à l'invitation d'Ambient Memory. Est-ce que tu peux te présenter, malgré que j'ai déjà donné quelques informations sur toi, d'où tu viens, qui tu es.
Alors bonjour, bonjour tout le monde. Moi c'est Manuel, donc j'officie sous le pseudo Irezumi en ambiante. Et certains me connaissent aussi pour mon autre projet techno qui est Manuel M. Donc je fais ce projet depuis 2008, il y a 3 albums qui sont sortis actuellement.
Voilà, est-ce que tu es plutôt à faire des lives, des DJ sets, enfin, quelle est un peu ta spécialité si j'ai envie de dire?
Alors au début j'étais plutôt DJ set et au fil du temps en fait la production m'a intéressé de plus en plus. Et je me suis mis au live au fil du temps et là j'apprécie vraiment, j'aime bien faire les deux, mais c'est vrai que j'ai quand même une petite préférence pour le live quand même.
D'accord, est-ce que justement c'est peut-être, tu as l'esprit on va dire créatif, donc c'est peut-être plus intéressant effectivement de manipuler des machines. Est-ce que tu manipules certains laptops ou tu es plutôt modulaire, enfin tu travailles avec quel type de machine?
Alors, pour éviter le fameux gear acquisition syndrome, je suis plutôt resté sur le software avec beaucoup de contrôleurs et tout. Et aussi par facilité, parce que je peux ressortir des anciens projets plus facilement que sur du hardware. On va dire, j'essaie de m'organiser en sorte que je puisse pouvoir ouvrir tout et vraiment avoir tout sous la main. Là, par exemple, pour le dernier live, ça m'a énormément servi parce que j'ai utilisé les 3 albums en fait comme matière. Donc du coup, c'était plus intéressant de pouvoir y accéder très rapidement et de pouvoir rejouer avec les sons originaux aussi. Donc c'était plutôt cool.
D'accord, et le dernier live à Angers, on en parlera tout à l'heure. Pour revenir à tes débuts, quel a été le déclic? Alors, tu es peut-être musicien de formation, je ne sais pas, guitariste, batteur ou un autre instrument. Justement, quel a été le déclic pour dire, je vais me lancer dans la musique, et notamment la musique ambiante?
Alors, ça remonte il y a très très longtemps. En fait, j'ai toujours eu, comme d'hab, j'ai toujours eu la culture musicale avec le grand frère ou la grande sœur, donc... C'est un peu paradoxal parce que d'un côté c'est du berrurier noir un peu punk et de l'autre côté c'était un peu plus électronique, un peu de Jean-Michel Jarre, un peu de rock anglais et puis un peu de musique de jeux vidéo en fait, de musique qui était sur l'Amiga 500 et en fait ce qu'il y avait c'est que tu avais des soundtrackers en fait. Donc du coup ça m'a toujours un peu passionné de voir un peu ça et tout. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser à tout le départ de la musique assistée par ordinateur. Donc avant, on avait forcément Cubase et tout le reste, tous les grands ténors du genre. Et il fallait forcément passer par du hardware et tout. Et puis ensuite, des logiciels comme Reason, comme Rebirth, tout ça sont arrivés. Donc qui ont ouvert vraiment les portes à énormément d'artistes à ce niveau. Et en fait, par exemple, le premier album a été vraiment composé entièrement sur Reason, de bout en bout. Et tout simplement, le départ, c'était, je traînais comme beaucoup d'artistes sur Audiofanzine, à chercher des informations. J'ai croisé la route d'une personne qui faisait de l'ambiance où on avions beaucoup de choses en commun, enfin de goûts musicaux, je dirais. Et c'est lui qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier pour dire bah, tiens, il faudrait faire un album. Donc au fil du temps, l'idée s'est affinée. Il m'a énormément aidé. Donc du coup, ça s'est vraiment lancé comme ça, quoi. Puis, ben, voilà.
Et tu as fait aussi, donc là, peut-être un petit retour en arrière, je ne sais pas chronologiquement parlant, tu as aussi animé quelques émissions de radio, enfin plus radio en podcast. On en parlait alors tout à l'heure hors micro en Belgique.
Alors oui, ça par contre, c'est arrivé plus tard.
Ah d'accord, ok. D'accord. Très bien. Donc oui, après c'était plus du DJ set, puisque c'est, j'imagine, des sélections de morceaux et du coup un mix qui est mis en place. Du coup pour ça, donc c'est un autre univers hein, par rapport à ce que tu nous disais avant, par rapport au live, aux machines. Et,
Ah oui, c'est sûr. Non, en fait, c'était toujours à traîner un peu dans les magasins de disques et puis de croiser toujours des bonnes petites têtes qui vous font découvrir des choses que vous ne connaissez absolument pas, découvrir... En fait, vraiment toute la galaxie techno et tout ce genre de style. Donc forcément, l'ambiance est accolée un peu à ce style-là. On y arrive toujours un petit peu par accident. Enfin, je pense que nous, en général, en France, on a une balise un peu ambiante qui est le premier album de Jean-Michel Jarre que, on va dire, chaque parent, grand-parent ou quoi, ou tonton a toujours dans sa discographie quelque part. C'est un petit peu le fer de lance. Et après, on commence à découvrir différentes choses. Mais par exemple, quand on est toujours associé un peu tout ce qui est techno, quand vous grattez un petit peu, ben forcément, vous allez tomber sur du Kraftwerk, vous allez tomber sur les premiers albums qui ont forcément des points d'accroche aussi. Après, quand vous cherchez un peu dans cette génération-là, vous trouvez du Brian Eno, il y avait du Klaus Schulze aussi. Il y a énormément de points d'accroche en fait, à ces différents milieux et tout se recoupe au fur et à mesure.
Bien sûr, oui. Avec toutes les ramifications, l'ambiance vient du krautrock et puis après il y a énormément de ramifications. Donc effectivement le sujet est vaste. Donc si on repart un petit peu l'aspect live. Donc il y a eu différents albums. Alors d'une manière générale, quel est ton état d'esprit? Est-ce que voilà à un moment donné tu dis voilà j'ai produit différents morceaux, je vais faire un album, ou tu pars du principe de dire voilà j'ai vraiment envie de faire un album? Donc je commence à réfléchir, à regrouper des sons, à chercher des éléments pour produire des morceaux. Comment, dans quel état d'esprit tu es quand tu produis un album?
Alors parfois ça peut s'apparenter à, on va dire pour la production des deux premiers, ça a été vraiment de la session à chaque fois et se dire bon bah, tac, je produis constamment, j'ai toujours des idées, toujours des brouillons qui traînent. Hop, et à la fin, on fait une sorte de patchwork. Et ensuite, on va dire, on assemble ça en tant qu'album. Là, pour le deuxième, j'ai essayé, enfin le dernier, pardon, l'album Forest. En fait, j'ai vraiment essayé de me dire, bon, ben, tu as tant de temps et tu produis complètement. Tu fais une session complète avec tout ça. Et il faut que à cette date limite, que l'album soit terminé et qu'on passe à des étapes plus... Moins passionnant, qui sont le mixage et le mastering.
Il doit être assez lourd à faire, enfin j'imagine.
Je vous avoue que ça peut réussir à vous en dégoûter parfois d'un morceau quand vous l'entendez 50 fois, et devoir corriger certaines choses et tout. Mais bon, après, une fois que vous prenez un peu de recul, vous recommencez à les apprécier, bien entendu.
D'accord. Alors, je parlais d'état d'esprit. Alors, après, c'est des choses, moi, que j'ai relevées. C'est... Voilà, tu me dis si je suis dans le vrai ou dans le faux. Donc par rapport pour endurance, donc ça fait office de mouvement parce qu'il y a endurance 1, 2, 3, 4, 5. J'imagine que c'est des mouvements. Alors il y a peut-être du field recording parce que par exemple dans l'endurance suite, il y a des bruits d'eau en tout cas. Est-ce qu'il y a une recherche de field recording? Il y a des voix aussi. Des moments un peu sombres, des moments avec ce qu'on appelle du drone, des notes tenues. Est-ce que voilà, c'est des choses vraiment que tu as voulu mettre en place ou c'est vraiment ça a été spontané en disant il y a des mouvements, je vais mettre ça à un moment, autre chose à un autre moment. Enfin voilà, comment ça s'est construit pour toi?
Alors donc à ce niveau-là, ben c'était vraiment du statut de recherche aussi de réécouter. À l'époque, j'écoutais énormément d'albums, vraiment j'ai quelques albums fétiches de cette époque-là qui tournaient constamment, où j'étais un peu obsédé par ça. En fait, il y a deux albums de Josh M. Papp, ou à côté c'est Speedy J, qui ont été produits sur Fax. Et en fait, ces deux albums-là ont été vraiment des points d'accroche pour le premier album. Ainsi qu'un. En fait, il y a eu deux autres références, qui sont par exemple la bande originale du jeu Silent Hill par Akira Yamaoka, qui a vraiment une atmosphère très particulière. Et toujours cette technique, en fait, d'utiliser des sons très ralentis, très. En fait, vous avez vraiment quelque chose de détruit, quelque chose de sourd, où ça vous plonge vraiment dans une ambiance beaucoup plus particulière. Mais où il y a toujours en fait un petit degré de lumière qui traîne quelque part, quelque chose qui ne serait-ce pas nécessairement vous donner de l'espoir, mais quelque chose en fait, une sorte de lueur en fait. Enfin, je sais que moi je m'imagine un peu ça comme ça. Enfin, la musique a toujours un côté avec des couleurs, avec des lumières, un peu de clair obscur, ce genre de choses. Et donc pour cet album-là, il y a ça. Et il y avait un album en fait qui est pareil. Encore un autre artiste techno qui est Henrik B. Avec l'album Cryonix, et qui a été lui où ça a été plus un album journal en fait, où lui par contre a récupéré vraiment, enfin je ne vais pas situer sous forme de date, mais qui est une sorte de regroupement de morceaux, on va dire en disant bon tiens, on regroupe ça sous une forme d'album ambiant. Et c'est un peu tous ces points d'accroche là qui m'ont un peu plongé dans ce sound design, dans toutes ces choses. Puis bah, pareil, de tout ça, il y a tout aussi associé à toute la mélancolie autour.
Comme l'ambiance, c'est assez mélancolique quand même. Ça peut l'être en tout cas.
Bah après, ça peut. Il y a différentes. Je trouve qu'il y a différentes couleurs dans l'ambiance. Il y a quelque chose, des choses qui peuvent vous toucher. On va dire au niveau introspection. Vous avez parfois des choses tantôt méditatives, tantôt hypnotiques. Après, c'est selon le ressenti de chacun et les sentiments de chacun. Et aussi le mental de chacun lors de l'écoute. C'est quelque chose qui va vous toucher le jour même qu'on ne vous touchera absolument pas le lendemain.
Oui, tout dépend justement, je reviens toujours à cet état d'esprit. Les morceaux racontent une histoire, enfin après que l'on peut s'inventer, parce que voilà, l'ambiance est une musique qui ne se danse pas, donc on peut être à écouter au casque, allongé, les yeux fermés, donc forcément on va penser à des choses et dériver sur différents éléments, tristes ou plus joyeux. Donc ouais, c'est ce qu'on retrouve dans l'ambiance. Et justement dans les différents albums, j'ai l'impression que du coup le deuxième album, toujours pareil, est un petit peu plus sombre. Alors il est un petit peu plus sombre, donc c'est je sais pas si c'est voulu. Alors, je l'ai peut-être ressenti comme ça, et tu vas me dire pas du tout. Je sais pas comment tu
vois la chose. Le deuxième album, oui, est beaucoup plus sombre, parce que ça a été un sujet un peu plus sensible là-dessus, parce que j'étais tombé dans une sorte de dépression que j'avais du mal à m'en sortir, donc j'ai dû faire un travail sur moi au fil des années. Et là où c'est vraiment tombé, c'est en fait malheureusement j'ai perdu mon frère à cette période là au niveau autour de mes 30 ans, un mois juste avant. Et donc ça a été un peu le point en se disant bon là c'est où tu tombes complètement, où t'essayes de catalyser ce passage sur quelque chose. Donc là, je l'ai matérialisé en quelque sorte sur cet album, quoi.
Après, ben, du coup, on repasse sur des choses un peu plus... Alors, c'est vrai que le premier morceau, enfin, j'ai trouvé en tout cas par rapport à ton album Forest, un peu plus elfique, je ne sais pas, avec des elfes, quelque chose d'assez... on rentre dans une forêt un petit peu merveilleuse, et puis du coup, on voyage vraiment au travers des différents morceaux. Donc, toujours pareil, avec pas mal de field recording, des choses plus lumineuses, des choses plus sombres. Donc je pense que c'est voulu aussi. Il y a donc on entend des voix, il y a des poèmes. Donc bah, tu peux nous dire tout ça parce que a priori tu es assez fan d'une poétesse.
Oui.
Voilà. Et donc je pense que ça a été l'élément que tu as pu intégrer justement à cet album. C'est quelque chose qui te tenait à cœur.
Oui, tout à fait. Oui. Et donc oui, j'ai pas mal inséré de poèmes. J'en ai inséré quelques-uns. Donc c'est une poétesse américaine bien connue qui est Emily Dickinson. Et ces textes me touchent beaucoup car ils peuvent être d'une simplicité déconcertante mais d'une profondeur vraiment, vraiment remarquable. Et c'est pour ça que je me suis dit, associé à un endroit comme la forêt, je me suis dit que bah, avoir une introduction comme tu dis, un peu elfique.
Voilà, c'est... après, ce n'est que mes propos. Hein.
Ah non, non, mais ça peut très bien... Justement, ce qui est très intéressant, et ce que je voulais dans cet album-là, c'est déjà avant tout qu'il soit beaucoup plus lumineux que le précédent, qu'il soit beaucoup moins lourd. Parce que le truc par rapport au deuxième album, je fais une légère digression juste avant.
Non, non, il n'y a pas de souci.
C'est par rapport au deuxième album, on me disait... C'est un bel album, mais il est triste. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même pas, c'est pas le truc le plus joyeux de toute la Terre, déjà. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas justement essayer de faire quelque chose où c'est pas nécessairement neutre, mais on va dire d'avoir un état un peu stationnaire, en fait, où à un moment, vous allez avoir des envolées qui vont vous emporter, après des choses qui vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes. Ou parfois des choses vraiment profondes où là vous allez ressentir des choses différentes ou vraiment des couleurs différentes, ce genre de trucs.
D'accord, une espèce d'impulsion, de rebond par rapport voilà au second album.
Thank you.
Tu es aussi sur SoundCloud. Alors, est-ce que c'est aussi un petit peu un laboratoire pour tester un petit peu les morceaux que tu fais et peut-être après justement faire les différents albums que tu as pu faire?
Alors SoundCloud, en fait, j'y étais beaucoup. À une période, j'y étais beaucoup à balancer de temps en temps des choses comme ça et aller, je vais pas dire presque les retirer aussitôt, mais pas loin. Là, ce que j'essaye de faire actuellement, et j'avais balancé la première session il n'y a pas très longtemps sur YouTube, en fait, je me suis tenté au streaming avec Music for Sleeping Souls, où là, c'est vraiment une heure d'improvisation complète, où on va dire, j'ai vraiment juste une légère base, vraiment très très légère, et ensuite après, je divague pendant une heure, je vois un peu, et donc je teste comme ça. En fait, là, je commence à prendre du plaisir, en fait, à enregistrer de cette manière et de me dire, voilà, là, tu fais ce que tu veux, t'essayes de faire en sorte que ce soit musical et que ça plaise, mais que, justement, se laisser aller comme ça, de voir un petit peu ce que ça dit. Et donc, du coup, là, je suis plus en train d'expérimenter sur Twitch actuellement.
D'accord.
Donc, voilà.
Ok, oui. Donc, oui, c'est une espèce d'invitation au sommeil, justement, cette création sur YouTube. Tu vas sûrement en refaire d'autres, peut-être ?
Oui, le temps me manque, malheureusement.
Oui, comme à beaucoup. Moi, j'imagine que voilà, c'est assez chronophage et que ça ne s'improvise pas en 5 minutes.
Tout à fait.
Après, on avait parlé, on avait commencé à en parler justement tout à l'heure des émissions de radio. Donc, tu as pu avoir aussi pas mal de morceaux qui sont passés dans différentes sélections, notamment avec Jean-Yves Leloup dans son émission. Avec Eric Pajot, Radio Mental. Est-ce que c'est des choses qui reviennent régulièrement ? Parce que si on reste vraiment sur le sujet aussi de Jean-Yves Leloup, tu as pu participer, alors après c'est plus des événements, c'est pas de la radio, mais l'écosystème, le 2, je crois.
Avec oui, c'est ça.
Artistes comme Machka Protocol, je crois, de Souvenir.
Oui, tout à fait.
Ça a été aussi peut-être pour toi un mentor, Jean-Yves Leloup, parce que c'est quand même un petit peu la référence ambiante française. Enfin, après, tu m'arrêtes si je
dis... Ah non, tout à fait d'accord. Là,
est-ce que c'est un peu ton mentor aussi?
On va dire qu'on en discute. J'aime bien sa manière de penser. Et quand il intervient, j'ai dévoré à l'époque déjà ses chroniques quand il était vraiment en journalisme pur pour chroniquer des disques. Et même via ses bouquins, via l'expo électro qu'il avait fait aussi à la Philharmonie de Paris, donc c'était très intéressant. Et non, à chaque fois, moi j'aime bien ce qu'il fait, ce qu'il propose. Il a toujours une sélection vraiment très fine et très juste à chaque fois. Il y a toujours un très bon équilibre. J'aime bien cette personne. C'est quelqu'un de très agréable et j'ai déjà en fait à la Je ne sais plus si c'est à la Grange à musique à Creil. Je sais qu'il était venu pour une conférence. Et c'était fort intéressant ce qu'il avait fait.
Tu as aussi, pour parler justement, rebondir un petit peu sur les différents événements, fait pas mal de live, notamment à Écosystème. Tu as aussi, quelques années prolifiques. Alors, je ne sais pas si c'est le terme exact. Tu me diras entre 2016-2018. Où tu as fait pas mal de live, en Belgique, en Pologne. Tu es même retourné peut-être, tu as fait deux ou trois...
Alors j'ai fait deux apparitions en Pologne. J'ai fait une première apparition en 2013. Donc avant même que le deuxième album, je réfléchissais à le faire et il n'y avait aucune chose qui sortait ou quoi. En fait, je raconte juste cette petite chose. Oui. Où en fait, c'était vraiment... Ils ont la personne qui a organisé cet événement, enfin l'équipe qui a organisé ça. Donc en fait, c'est à Bialystok, c'est pas loin de la frontière biélorusse. D'accord. Et ils ont utilisé un ancien bâtiment de l'armée russe de l'époque.
Oui.
Et qu'ils ont reconverti dans vraiment un lieu pluriculturel. Et en fait, j'ai joué dans une salle où ils avaient recréé la Black Lodge de Twin Peaks.
D'accord.
Et c'était tout simplement magnifique. Enfin, ils ont mis vraiment une attention et un amour pour cette musique que j'ai vraiment apprécié avec eux. Et la deuxième fois où je suis revenu, là cette fois-ci dans le cadre du deuxième album, Là, c'était dans un amphithéâtre, vraiment plongé vraiment dans une lumière très sombre où il y avait juste ne serait-ce qu'un faisceau. Enfin, très, très particulier aussi, la manière de jouer. Mais toujours, oui, avec un accueil chaleureux là-bas. Enfin, j'adore ces personnes-là. Je sais qu'on reste régulièrement en contact là-dessus. Et non, après, je réfléchis à ce que j'ai fait. Oui, j'avais...
Si, Astropolis.
Oui, avec...
C'est un bel événement au château de Kerouac.
Oui, Kerouac ou Kerriolet, je ne sais plus. À chaque fois, j'inverse les deux.
Je sais que c'est un événement connu avec... Bon, il y a pas mal d'artistes, notamment souvent, c'est Laurent Garnier qui est booké là-bas. Après,
c'est tous les ténors.
Ténors des musiques techno. Et du coup, le chill out. Donc c'est bien parce que c'est pas toujours... Il n'y a pas toujours des chill out dans les événements. Enfin, en tout cas, de souvenirs, c'est pas toujours marqué.
Ça a été une grande mode dans énormément de... Enfin, moi, j'ai connu ça jusqu'aux années de 2010, en gros. Et après, c'est un petit peu... Je vais pas dire passé de mode, mais c'est un petit peu disparu, tout simplement. Personne ne sait pourquoi, en fait.
Ouais, je pense qu'il y a une respiration. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau...
Il y a un renouveau.
Un renouveau de la musique ambiante, avec... des artistes qui produisent beaucoup. Enfin, tu en fais partie, parce qu'on parlera aussi d'un article qui est paru il y a quelques semaines. Je crois que c'était au mois de décembre, au mois d'octobre, novembre, je crois.
Oui, c'est Libération. Ça, début novembre sur Libération.
Oui. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc, oui, on disait voilà, les espaces chill out, donc sur Astropolis, qui est quand même un événement assez, assez conséquent en Bretagne. Tu as pu aussi jouer, alors, le label Compact, qui est un label ambiante avec Wolfgang Vogue, je crois que ça se dit comme ça,
ouais.
Qui est le patron un peu de ce label, de ce gros label, sous le pseudo Gas, je crois.
Oui, oui, oui.
Qui est pas mal de choses assez atmosphériques, assez...
qui est énorme.
Oui.
C'est énorme.
Mais justement, est-ce que c'est un exercice facile pour toi, le live? Est-ce que tu aimes être vraiment devant des gens pour vraiment faire un live? Ou c'est quelque chose que... Voilà, quel est ton ressenti?
Alors, je dirais ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait, il y a... Par exemple, quand je joue sous mon pseudo techno, c'est plus la récréation et c'est quelque chose de beaucoup plus festif et tout. Tandis qu'Irezumi, c'est vraiment plus mon projet où je dévoile un peu plus mon intimité. C'est quelque chose de plus personnel. Donc du coup, ça met dans un certain état aussi mental, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau de la préparation et de tout le reste. Mais c'est quelque chose de plus particulier, en fait. Vous êtes dans une atmosphère différente. Enfin, moi, je sais que moi, pour ma... Quand je fais un live sous Irezumi... Justement, c'est quelque chose de plus particulier parce que je suis beaucoup plus concentré de faire vraiment attention parce que justement dans l'ambiance, chaque détail compte, chaque son compte. En fait, même si on prône le minimalisme, en fait, oui. Ça cache énormément de choses complexes derrière. C'est pour ça.
Oui, les gens sont assis, donc ils sont plus attentifs à ce qui est diffusé aussi. Donc ça demande peut-être plus, voilà, ouais, effectivement, de
la finesse, en fait.
Oui, voilà, exactement. ligne live. Est-ce qu'il y a, selon toi, des publics plus faciles ou plus difficiles par rapport aux endroits où tu as pu jouer? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs à ta musique?
Après, je fais toujours un parallèle à la techno à chaque fois parce que c'est, je connais bien.
Oui, puis ça, c'est ton autre projet aussi, donc il y a un lien entre les deux.
Bah en fait, je me dis toujours, et que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans, il y a toujours un lieu, un moment, une heure, un endroit pour écouter de la musique. C'est-à-dire, jouer de l'ambiance dans un métro à 7h du matin, forcément, ça n'intéressera personne, par exemple. Par contre, vous jouez de l'ambiance dans un musée où, par exemple, vous avez vraiment des places assises, des choses comme ça, une condition particulière, une lumière particulière, ou même tout simplement des œuvres à côté des œuvres d'art particulières. Forcément, ça va être quelque chose qui va capter beaucoup plus l'attention, en fait. Et pour moi, c'est des choses importantes. C'est des choses très importantes à ce niveau-là.
Et justement, en parlant d'art, tu as aussi un projet avec un artiste qui malheureusement nous a quittés récemment, Pierre Soulage. Donc c'est un projet peinture-musique. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors,
c'est confidentiel.
Non, c'est encore dans les tuyaux. C'est un petit peu une arlésienne, faute de temps. En fait, c'est avec un ami lillois que je fais ça. On voulait justement... on va dire s'inspirer et puis respecter tout simplement le travail de Pierre Soulage, qui malheureusement nous a quittés, bien entendu. Et en fait, là-dessus, nous, on voulait vraiment proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire que d'utiliser son œuvre, de la réinterpréter de façon musicale, par exemple, tout simplement un détail technique. En fait, on avait pris des photos de certaines œuvres quand il avait exposé au Louvre. Et en fait, j'ai passé ça dans un logiciel qui réinterprétait tout ça dans une sorte d'interprétation spectrale. Et en fait, après, ben forcément, tirer une matière de tout ça, raccorder différemment, et ensuite, après, d'utiliser de la vidéo avec projection inversée, ce genre de choses. Enfin, je sais que la partie vidéo, c'est plus mon ami qui la gère. Et on essaie, en fait, à chaque fois d'apporter... On a chacun nos compétences, mais on apporte nos petits grains de sel l'un et l'autre.
Et donc, du coup, on construit quelque chose à deux.
Voilà, exactement, en fait, tout simplement. Et là, il est resté un petit peu dans les tuyaux, faute de temps. On a pas mal travaillé sur différents, je vais pas dire brouillons, mais on a déjà certaines choses, certaines pistes qui sont terminées. Mais pour l'instant, après, faut articuler tout ça, ensuite préparer une performance autour de ça. Oui. Donc en fait, il reste énormément de travail. Je peux très bien dire, ça peut être dans 6 mois, comme ça peut être dans plusieurs années. Là, on ne s'est pas donné de contraintes de temps. Ça sortira quand ça sortira.
Tu as aussi fait un peu, on va rester, c'est pas très gai ce soir, des remixes aussi d'un artiste japonais.
Suzumu Yokota.
Yokota, voilà, qui est pareil en 2015. Qui est décédé en 2015, je crois, d'une longue maladie. Mmh. Pareil, tu as fait un remix, donc c'est pareil, c'est un travail, j'imagine, peut-être pas simple, de se dire, voilà, personne défunte, d'essayer de retranscrire quelque chose, hein, un petit peu comme en mémoire, justement, à cette personne. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est difficile?
Ah, ça peut être un peu compliqué. Enfin, je sais que le morceau que j'ai remixé, a toujours beaucoup d'importance à mes yeux, l'original. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas lui faire un clin d'œil, et puis tout en respectant sa mémoire, et puis de proposer un angle différent, en fait, tout simplement. Et là, c'était plus particulier, parce que, par exemple, Pierre Soulage, on a commencé à travailler de son vivant.
Oui.
Donc, du coup, on n'a pas le même œil. Peut-être que quand on va s'y remettre, on va ajouter un regard différent. Tandis que là pour Suzumu Yokota, ça a été... Là, bon, en gros, la nouvelle était tombée et c'est... Ah, mince. Là, on va faire quelque chose pour l'honorer et puis donner un coup de projecteur à notre manière.
Quoi. Oui. Sur un autre sujet, on va essayer de passer à...
Soyons plus positifs.
Plus positifs, ouais, ce soir. Du coup, on parlait tout à l'heure un petit peu de presse, de Libération. Donc, il y a quelques semaines de ça, il y a eu un article... rédigé par justement Jean-Yves Leloup, on en parlait tout à l'heure, sur l'ambiance où tu as été cité, dont il parle justement de la nouvelle scène ambiante, parce qu'on parlait aussi de cette nouvelle respiration avec de nouveaux artistes, parce qu'en fait, il y a énormément d'artistes, ne serait-ce qu'en France, justement, qui produisent, enfin, qui font des DJ sets ou des lives. Bah, justement, est-ce que c'est un petit peu une fierté de se dire, voilà, je suis dans le journal, comment...
J'avoue, oui. J'avoue que Jean-Yves nous mette un coup de projecteur sur notre musique fait énormément de bien. Et aussi de voir tout le travail de fond pour en arriver justement à cette finalité-là, c'est vraiment quelque chose de chouette. Si justement ça peut éveiller les curiosités et d'aller en avant, c'est, pourquoi pas. C'est, je retiendrai toujours ce qu'il a dit dans certaines interviews en disant mais l'ambiance peut être partout. Vous en entendez sur Netflix, en respiration dans des bandes originales. Enfin, ça peut être vraiment partout.
Tout à fait, dans les films, quand il va y avoir une action, souvent on a des musiques un petit peu inquiétantes, tout ça. C'est aussi partie de l'ambiance. On parlait de musique d'ascenseur, enfin surtout Brian Eno. Parler de musique d'ascenseur, Eric Satie de musique d'ameublement, mais voilà, c'est une musique qu'on entend, mais qu'on n'écoute pas. C'est un petit peu la définition de l'ambiance.
Tout à fait.
Mais voilà, maintenant, avec toutes les technologies, puis l'évolution aussi de cette musique, hein, depuis les années 70 jusqu'à nos jours, voilà, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites de manière plus électronique. Donc, c'est de le faire connaître, puis surtout faire connaître cette musique qui n'est pas connue. Souvent, on parle de musique de niche, mais en fait, pas vraiment, parce que comme tu disais, voilà, elle est partout.
Tout à fait. Et c'est en fait, à chaque fois, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que pour l'ambiance, donc on disait bien que cette musique est partout. Et ce qu'il faut se dire maintenant, c'est qu'à l'époque, en fait, c'était vraiment quelque chose qu'on passait en arrière-plan et tout le reste. En fait, quand vous voyez vraiment les nouveaux artistes qui sont présents aujourd'hui, aussi bien pour la scène française qui est très prolifique, et la scène ainsi que la scène internationale, et vous avez différentes couleurs. Et en fait, je trouve que c'est vraiment il y a vraiment des artistes en fait qui essayent de pousser le sentiment, le ressentiment, en fait, comme si en fait c'était une musique d'un film qui n'existe pas, ou d'un film que vous créez vous-même, où vous dressez vos personnages, vos actions, vos lieux. C'est vous qui décidez en fait derrière ce que vous voulez mettre.
Est-ce que tu as des événements à venir, des lives, ou peut-être aussi un projet d'album, encore un quatrième, ou de EP?
Alors, donc pour l'instant, j'ai fait une petite pause parce que mine de rien, j'ai sorti Forest au mois de juillet. Ensuite, j'ai enchaîné les lives, le live en juillet pour Écosystème, et ensuite le live à Angers en octobre.
D'accord.
Et là je voulais faire une toute petite pause avant de reprendre, là par contre, oui, pour un album encore. Après, j'ai un autre EP que je dois terminer à côté. Oui, en fait, j'ai remixé mon projet Manuel M, mais en fait sauce ambiante, et c'est trouvable sur mon YouTube.
D'accord.
Et non, ça, je trouve des pistes, je regarde un petit peu, j'essaie de me réorganiser, et puis... tout simplement d'essayer de me lancer dans d'autres challenges. Je suis en train de voir ça, en fait.
D'accord. Après, en même temps, tu as de quoi faire avec tes deux projets. Donc, Irezumi, justement, je ne t'ai pas posé la question, pourquoi ce nom? Donc, à la base, la définition, c'est un tatouage japonais, donc qui se fait sur tout le corps. Est-ce que ça a une signification?
Déjà, le mot est plutôt agréable à l'oreille, déjà. Et en fait, c'est l'action de tatouer, en fait. Donc, du coup... Quand vous pouvez paraphraser ça à la musique, c'est-à-dire l'action d'inscrire quelque chose dans votre peau, dans votre ressenti, par exemple, c'est quelque chose qui peut être très fort, en fait, je trouve.
Ouais.
On va dire quelque chose, par exemple, une musique qui vous donne la chair de poule, par exemple. C'est une musique que vous n'oublierez pas, ou ça peut être une musique qui est totalement intemporelle. Et pour moi, le fait d'inscrire ça comme un tatouage, en fait, c'est quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui va vous suivre en fait au fil du temps. Donc voilà. D'accord. Pour moi, ça, c'est un peu cette signification là.
Et ton projet non plus techno, c'est Manuel Rem
Manuel M, tout ça.
Manuel M, pardon. Pareil, est-ce que tu as des projets à venir?
Alors, vu que j'étais pas mal occupé et qu'il résumit cette année, forcément, le plus dur est de partager le temps entre les deux, parce que forcément, tout le monde a sa petite vie aussi tous les jours. Et non, bah je dois reprendre la production. Mais en fait, ce que je faisais aussi en streaming, en fait, l'idée du streaming au départ, c'était l'idée de transmettre comment créer de la musique. C'est-à-dire que vraiment, la base du truc, j'avais commencé ça en début d'année, c'était de se dire, bon, bah, je pars d'une page blanche, on a 2 heures. Allez, on essaye de faire un truc de bout en bout. Bon, pas la structure complète, bien entendu, mais d'avoir l'idée principale et de montrer vraiment directement ça aux gens. C'est-à-dire de vraiment que ce soit très intuitif pour que n'importe qui de n'importe quel pays, en disant, ah tiens, il a utilisé tel bouton, il a utilisé tel truc, tiens, je peux le reproduire chez moi, je peux le faire. Je suis plus dans une transmission que vraiment de me dire, ben, je vais garder mes petits secrets, mes petits trucs de production à moi, machin. Ça ne m'intéresse pas. En fait, la musique est faite pour être partagée déjà à la base. Donc, partageons les connaissances en même temps. Là, on parlait tout à l'heure de solfège ou quoi. En fait, moi, je n'ai aucune connaissance de solfège. Ce n'est que dû à l'oreille. Ce n'est que du... Donc, certes, je passe beaucoup plus de temps lors de la composition par rapport à un musicien classique qui a directement les suites d'accords déjà imprégnées dans ses doigts.
Bien sûr. Non, mais après, c'est peut-être des nappes, tu fais une base, puis après, c'est couche après couche.
Oui, non, mais tout à fait. On peut l'interpréter de cette manière-là aussi. C'est tout simplement, parfois, vous empilez. Parfois, en fait, ben, vous allez dire, bah, tiens, bah, par exemple, ce son-là, bah, je vais juste prendre une petite partie qui m'intéresse. Je vais l'étirer à l'extrême, on va voir ce que ça donne. Mais en fait, c'est surtout de laisser... comment dire ça ? Bah de l'expérimentation, tout simplement. C'est vous allez expérimenter. Et en fait, c'est ça qui fait de vous ce que vous êtes après. C'est à force d'avoir chuté, de vous être relevé, d'avoir essayé différentes directions, différentes choses. C'est ce qui devient votre patte, en fait, après. Après, c'est valable pour énormément de choses dans la vie.
Oui, non, tout à fait. Après, on peut effectivement le retransposer dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, déjà pour... avoir toutes les informations, avoir un petit peu bah, de tout ce qu'on a parlé. Est-ce que tu es sur Facebook, Instagram, sur d'autres
alors, réseaux sociaux ? Alors oui, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook.
Et tes productions aussi, on peut donc les trouver, j'imagine, sur des plateformes de téléchargement.
En général, j'essaie de privilégier Bandcamp parce que c'est vraiment une logique... du producteur au consommateur, comme on dirait, pour des légumes bio, par exemple.
De l'épicerie fine, il n'y a pas d'intermédiaire.
Oui, voilà, oui, tout à fait. Et donc après, non, ça se suit sur le... En général, ce que j'essaie de faire, c'est, par exemple, pour un album, bah, qu'il soit écoutable sur YouTube pour le plus grand nombre, ensuite qu'il soit écoutable sur les différents services de streaming, après, pour les gens qui ont ça et qui peuvent suivre les artistes régulièrement. En fait, à chaque fois, j'essaye de faire en sorte, bah, même si une personne n'a pas de budget pour acheter l'album ou quoi que ce soit, qu'elle puisse l'écouter quelque part et qu'elle l'apprécie. Pour moi, c'est quelque chose que je tiens à cœur. C'est important pour moi que personne ne soit lésé, en fait.
Alors, on parlait aussi tout à l'heure des émissions de radio, mais est-ce que tu fais aussi des sélections de musique ambiante que tu affectionnes, peut-être aussi tes productions ?
Alors oui, en fait, j'ai une sélection sur Spotify. Donc pour la trouver, c'est très simple. C'est Irezumi Racine. Et en fait, c'est toutes les influences que j'ai depuis le début et même bah, tous mes derniers coups de cœur. Donc vous auriez un petit peu de tout. Du Steve Reich, du 36, du T-Maker, du Wolfgang Voigt. Un petit peu tout ce qu'on a parlé actuellement et certaines petites pépites que j'affectionne beaucoup.
D'accord, donc des heures d'écoute dans un univers divers et varié, on peut dire ça comme ça.
Exactement.
Bah merci beaucoup, en tout cas, pour,
bah merci à toi.
Pour cette interview. Et puis, on se tient informé des différents éléments en restant connecté donc sur Instagram et sur Facebook. Donc Facebook, c'est Irezumi et Instagram, pareil. On mettra tout sur les réseaux sociaux d'Ambient Memory. Vous aurez toutes les informations, les liens pour découvrir les différentes productions d'Irezumi. Bah, merci beaucoup. À une prochaine.
Merci beaucoup. Thank you.
L'émission se termine. Vous avez pu découvrir durant l'interview les morceaux suivants. Endurance 8, extrait de l'album du même nom, Endurance. Falling, de l'album 30. Entering the Forest, du dernier album d'Irezumi, intitulé Forest. Et en exclut, pour Ambient Memory, un nouveau morceau intitulé I Could See You One More Time. Retrouvez toutes les infos sur les réseaux sociaux d'Ambient Memory et d'Irezumi, Instagram et Facebook. Les playlists de Manuel sur Irezumi Racine, diffusées sur Spotify. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, lundi prochain pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.
Ambient Memory.